Le diable en Belgique. Et en fait, il s'agit de traduction. C'est un livre qui n'est pas un livre édité à compte d'auteur, c'est même un livre artisanal, je dirais, non?
Oui, plutôt. Nous avons une petite maison d'édition SBL. Nous existons depuis 10 ans. Et
Vous êtes spécialisé dans les diableries ou dans le fantastique
Dans tout ce qui est un peu pas grande littérature, dirais-je. Et du fait que ça ne trouve pas beaucoup d'impact au niveau des éditeurs, surtout belges actuellement, on a fait notre propre...
Pourtant, la Belgique est le pays du fantastique. On a quand même quelques grands noms qui...
Disons que jusque à l'époque de Marabout, quand Baronian dirigeait les collections, il y avait beaucoup de possibilités et depuis, c'est fini. Alors la France...
Pourquoi on ne s'intéresse plus au fantastique?
On s'intéresse au fantastique, mais semble-t-il, ce n'est pas commercial. Alors à partir du moment où en édition de poche, on ne peut pas tirer quelque chose à 20 000 exemplaires, ce n'est pas rentable, donc on n'édite plus.
Ah bon, c'est dommage quand même.
Oui.
Alors, vous vous intéressez particulièrement au fantastique. Ce ne sont pas des contes qui sont issus de votre imagination, mais que vous avez trouvé dans une... C'est assez curieux, il faut raconter cette histoire en détail, puisque vous avez traduit de l'espagnol des contes de chez nous, de nos campagnes. Alors oui. Ça, c'est assez curieux.
Ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu l'attention attirée dans une biographie par un ouvrage qui s'intitulait El Diablo en Belgique, c'est-à-dire Le Diable en Belgique. C'est une compilation due à Julio Paero, fils de Roberto Paero, qui a vécu en Belgique entre 1909 et 1923. Et en hommage à son père, le fils a, en 1953, compilé certains textes des légendes belges que lui avait écrits en espagnol. L'origine de ces légendes est l'auteur vivant en Belgique et sympathisant des Belges sous l'occupation allemande, principalement pendant la guerre 14-18, se voit privé de sa bibliothèque.
Comment se fait-il qu'il soit en Belgique à cette époque-là? Il était correspondant d'un journal.
Oui, c'est un journaliste. Il s'était déplacé en Europe à la suite d'un héritage, et à la suite de la fameuse semaine tragique de Barcelone, il était venu en Belgique, et il a commencé à être le correspondant régulier de La Nation, qui est l'équivalent du Monde en Amérique latine.
Et il envoyait... Est-ce qu'il était argentin?
Argentin, oui. Il envoyait régulièrement des contributions et il a poursuivi d'ailleurs son œuvre de journaliste pendant toute la guerre 14-18, ce qui est très intéressant parce qu'à une époque où notre presse était pratiquement inexistante, voire...
Mais il l'est en tout cas.
Oui, lui a pu envoyer presque au jour le jour des articles pendant les 4 bonnes années d'occupation.
Mais il a circulé un peu des deux côtés de la...
Oui.
De la ligne.
Oui, il s'est déplacé vers le sud, vers le nord, mais il se rendait régulièrement à Hollande, d'où il postait ses articles à destination de La Nation.
On le laissait circuler comme ça librement, d'un côté
et de l'autre. Apparemment, tant que vous vous déplaciez à pied, il n'y avait pas trop de problèmes. Il a été placé en résidence surveillée à partir de 1915. Là, je pense qu'il a dû s'arranger avec les membres de la résistance. Il a eu des contacts assez suivis, qui lui ont valu d'ailleurs des ennuis avec les Allemands, bien sûr, mais des médailles du côté des autorités officielles, ce qu'il n'a jamais cherché parce que c'était un homme modeste. Pour vous donner d'autres exemples, son épouse s'est engagée comme infirmière dans les rangs belges. Un de ses fils était brancardier. Deux de ses trois fils ont payé d'ailleurs indirectement de leur vie l'aide apportée à nos troupes.
Il fallait quand même être très attaché à ce pays d'adoption pour y sacrifier une partie de sa vie et même pour être impliqué directement. Non, il aurait pu très bien rester un observateur prudent.
Je comprends un peu l'évolution de sa pensée. Il a eu des contacts avant 14-18 avec des écrivains comme Maeterlinck, Verhaeren, Hubert Krins, Lemonnier et d'autres. Et il a commencé déjà à s'intéresser au caractère du Belge, qu'il trouvait ça très sympathique. Ce qui ressort d'ailleurs dans les contes que nous allons évoquer.
Parce que c'est pas l'avis de Baudelaire, donc...
Oui, mais Baudelaire est venu plus tôt, je ne sais pas si le
Belge avait changé en
peu. Oui, probablement. De ce fait, trouvant déjà le Belge sympathique et peut-être éprouvant une certaine compassion devant les problèmes nés de la Première Guerre mondiale, par réaction contre l'occupant et par réaction contre tout oppresseur, Paero est tombé en quelque sorte amoureux, disons, de l'âme du peuple belge, et il a voulu rendre un hommage, une fois qu'il a été privé de sa bibliothèque, il a voulu rendre hommage par la répercussion de notre terroir local sous forme de légende en Amérique latine. Et c'est pour cela qu'il a envoyé des contributions, et son fils a voulu souligner justement l'aspect intéressant de ces légendes en compilant certains certains des textes en 53.
Alors d'une part, il a été un témoin privilégié de cette guerre 14-18, et en plus, il est resté après la guerre encore pour approfondir encore ses connaissances de la Belgique et donc même des contes, du terroir, etc. Est-ce que son œuvre a été importante? Est-ce qu'il a été publié de son vivant? Est-ce qu'il a eu un certain rayonnement? Est-ce que c'est resté assez discret? Est-ce que c'était plutôt à côté journalistique?
Non. On peut dire que, en ce qui concerne sa production en langue espagnole, il a eu une certaine notoriété à l'époque. Il a publié des dizaines d'ouvrages, particulièrement dans le genre picaresque. Ce qui explique peut-être pourquoi il avait également une prédilection en ce qui concerne les contes humoristiques belges. En ce qui concerne les traductions, il a eu de son vivant un roman qui a été traduit en français, effectivement, et publié avec un tirage appréciable en France. Mais on peut dire que sa présence en Belgique, à part du côté des autorités officielles, est passée pratiquement inaperçue. Ça, je dois insister. À l'époque, à part ses amis folkloristes, personne ne savait qu'il s'intéressait au folklore belge. Ou bien les gens avec lesquels il était par hasard entré en contact. Mais ces légendes belges ont été donc écrites ou réécrites en espagnol et publiées en Amérique latine, mais étaient tout à fait inconnues ici.
Oui, et c'était peut-être le premier à faire ce travail, non ?
Je connais assez peu de cas, mais il y a tout de même des précédents. En l'occurrence, vers le milieu du siècle dernier, 1846, nous avons eu des folkloristes allemands qui ont compilé des légendes belges. Il y a eu une certaine Maria von Plönis, qui est d'ailleurs le point de départ de toute une filiation de légendes, et un certain Wolf. Ce sont des ouvrages de référence fondamentaux en la matière, et on trouve des légendes belges qui connaîtront, à partir de cette première version écrite, figée, de multiples variantes. J'étudie d'ailleurs dans l'introduction de cet ouvrage que moi j'ai intitulé Le Dial en Belgique en hommage à la compilation, ouvrage qui comporte non seulement l'intégralité des textes publiés en 53, mais les autres textes de Peiro que son fils n'avait pas pu compiler. Pour donner un ordre d'idée, la sélection de 53 comportait 16 textes, celle-ci en comporte 23.
Nul ne prophète en son pays, c'est assez curieux que ce soit des Argentins ou des Allemands qui soient obligés de se pencher sur notre folklore et sur nos légendes, non ?
Oui, je dirais qu'à l'époque où les Allemands se sont penchés sur nos légendes, la Belgique était un tout jeune pays, puisqu'il s'agit d'une quinzaine d'années après la naissance de la Belgique en tant qu'État. En ce qui concerne Peiro, là c'est effectivement plus curieux, mais par ailleurs on doit souligner tout de même qu'au début du siècle, il y avait un mouvement de folkloristes assez important, tant du côté néerlandophone que francophone, et il y avait de multiples revues. Par exemple, du côté wallon, il y avait la fameuse revue Wallonia animée par Oscar Colson, qui est un ami personnel de Peiro. C'est grâce à lui, surtout, je crois, que Peiro a pu prendre connaissance de ce qui existait. Il a dû être mis en contact avec Isidore Terlink, qui était l'autre ami, le volet néerlandophone de ses contacts au niveau folklorique, et qui, lui, connaissant le français, a mis Peiro au courant de ce qui existait du côté néerlandophone. On ne peut pas dire que nos compatriotes ne s'intéressaient pas à nos légendes, mais Peiro a été très important dans la mesure où il a donné une répercussion à l'étranger.
Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, au premier chef dans ce travail? Est-ce que c'était d'abord la traduction, puisque vous êtes, je pense, traducteur espagnol, anglais, français?
Oh, beaucoup plus de langues.
Encore plus de langues. Et donc, est-ce que c'était la traduction, ou bien est-ce que c'était d'abord le sujet? Ou alors c'était la découverte d'un homme oublié chez nous, si tant est qu'il a été connu? Ou bien les trois ensemble?
Plusieurs aspects ensemble. La traduction en elle-même m'intéresse toujours, mais j'ai d'abord été intéressé par le sujet, parce que c'est un sujet que je connaissais assez peu, et ça me permettait de découvrir de nouveaux horizons, mais également par l'homme en question. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur lui, afin de pouvoir réaliser la traduction, afin de comprendre comment il en était arrivé à s'intéresser à cela. Et surtout, ça a été fondamental pour moi. Au départ, j'ai un texte, j'aurais pu faire une traduction qui était une traduction littérale, et je me suis rendu compte, à la suite de ces contacts, qu'il avait pêché dans d'autres versions écrites des éléments. Et grâce à la lecture des biographies relatives à Peiro, j'ai pu retrouver les sources précises de certains textes. On se rend compte dans quelle mesure son apport à ce moment-là est important. Je dois dire tout de suite à sa décharge qu'il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un pasticheur. Son œuvre en soi est originale, parce qu'on trouve pas mal d'éléments qui ont purement et simplement disparu, et que je n'ai trouvé dans aucune compilation ou étude critique en Belgique.
Est-ce que c'est une œuvre d'historien ou bien est-ce qu'il lui met une touche personnelle qui fait qu'on puisse dire que c'est aussi un écrivain et...
Il y a les deux aspects à nouveau. Il y a l'aspect d'écrivain, indubitable. C'est un auteur qui s'intéressait aux gens picaresques et ça transparaît dans l'œuvre ici. Le diable est en quelque sorte le
picaro. C'est le côté truculent qui l'amuse.
Oui. Ça l'amuse assez fort. Il considère un peu tous les Belges comme des Tell Eulenspiegel, c'est-à-dire des bons vivants, etc. Et alors, non, bien sûr. C'est d'ailleurs très sympathique de nous voir comme cela. Et par ailleurs, je crois qu'il y a effectivement une œuvre d'historien ou du moins de folkloriste très consciencieux. Il compile des légendes, bien sûr, mais il s'évertue à se rendre sur place, à vérifier les détails. Il reprend également des recettes, des noms typiquement locaux de certaines plantes, etc. Et on a perdu tout cela de vue. J'ai eu des contacts avec l'un ou l'autre folkloriste de notre actuelle commission royale de folklore, et semble-t-il, il y a des éléments dont il n'avait absolument aucune connaissance. Donc il y a des éléments très important. Pour vous donner un exemple peut-être très flagrant, à un moment donné, ce n'est pas vraiment une légende, il reproduit l'histoire d'un procès de sorcellerie qui s'est déroulé à Mons à la fin du XVIIe siècle. Lui, à l'époque, a eu l'occasion de consulter encore des documents d'archives à Mons. Depuis, tous ces documents ont été détruits par le bombardement de mai 40. Semble-t-il, j'ai trouvé juste un article très succinct d'un autre historien belge, si vous voulez, où on trouve des éléments. Mais grâce au texte de Peiro, on peut reconstituer pratiquement tout le procès. On connaît les noms des protagonistes et tout. C'est assez important parce que on me dira bien sûr qu'un procès de sorcellerie, c'est un élément un peu secondaire. Mais pour le procès en question ou pour l'histoire de la ville de Mons, le seul document relativement fiable, puisque ça vient d'un lecteur, en l'occurrence Peiro, ayant vu les documents d'archives, existe en Amérique latine. C'est tout à fait stupéfiant.
Oui, alors, ce qui est plus stupéfiant encore, c'est que votre livre est assez discret. Nous sommes tombés dessus un peu par hasard, et c'est dommage qu'il n'ait pas une audience plus grande, et qu'une maison d'édition ne se soit pas intéressée, parce que justement, comme vous le dites et comme vous le faites remarquer, il y a là-dedans des choses importantes pour tous les historiens, les folkloristes, et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Belgique, et même la petite histoire de la Belgique.
Oui, je dois dire que j'ai prospecté les éditeurs francophones, c'est-à-dire tant belge que français, avant de me décider à l'éditer moi-même, bien que je ne me considère absolument pas comme un éditeur, parce que j'estimais que l'œuvre en question méritait d'être redécouverte. Et en plus, à ce niveau artisanal, ça m'a permis de transformer un ouvrage qui au départ est une compilation de contes en un ouvrage en quelque sorte de référence. Je ne veux pas être présomptueux, mais c'est pourvu non seulement d'une introduction générale sur le conte belge, d'une biographie assez importante et d'index qui renvoie tant au corpus de la traduction qu'à la biographie elle-même. C'est-à-dire qu'on évoque par exemple le fait du diable qui est un rocher attaché à la légende de Saint-Remacle aux alentours de Stavelot. Eh bien, regardez dans l'index analytique à fait du diable et vous retrouvez tous les articles, toutes les variantes du conte. Et vous savez que ça se trouve dans telle ou telle revue ou livre à la Bibliothèque Royale avec la côte et tout.
On a un ouvrage qui devrait intéresser nos universités, non ? Il y a principe. Des départements...
Ça intéresse en tout cas certaines personnalités comme Albert Dupin.
Oui, justement, c'est à lui que je pensais.
J'espère qu'il pourra donner un certain impact au niveau de ses étudiants à l'ULB. Et j'espère surtout que cet outil de travail permettra à d'autres chercheurs éventuellement d'approfondir leurs investigations en la matière.
Alors parlons des contes en eux-mêmes. Il y a des constantes, on avait évoqué tout à l'heure dans le courant de la conversation, est-ce qu'on peut rattacher les contes sur le diable, les diableries, ces contes belges à d'autres pays avec des constantes justement, on retrouve un peu les mêmes histoires, un peu comme les blagues qu'on raconte et qu'on adapte plus ou moins d'après les pays, et qui pour finir sont toujours les mêmes.
Certainement, la Belgique a toujours été un pays un peu maillon entre la culture romane et la culture germanique, et on retrouve ces éléments complémentaires et indissociables dans les légendes belges, qu'elles se déroulent au nord ou au sud du pays. Le thème du diable, en général, est un thème très vieux dans la littérature dite fantastique. On n'est dès lors pas étonné de retrouver beaucoup de légendes relatives au diable.
On peut le trouver sous des formes différentes, hein, le diable.
Oui. Le diable apparaît en tant que diable, revêtant des formes de beaux gentilhommes, etc. Mais en Belgique, nous avons une série de légendes relatives à ce qu'on appelle les diables d'eau, qui sont peut-être un peu moins connus, Je pense en particulier à un diable de la province du Brabant qu'on appelle Clude, qui est un plaisantin qui aime bien jouer de mauvais tours aux gens, et qui est un esprit de l'air, ce qui est assez différent, le diable étant en général un esprit plutôt du feu. À la fois d'ailleurs un esprit de l'air, ce Clude, et d'autres cousins plus néerlandophones, et esprit de l'eau, puisqu'il s'agit d'un diable qui fréquente les marais ou bien même les eaux courantes, et il joue toutes sortes de tours aux gens. À titre d'exemple, quelqu'un chevauche un cheval, le diable d'eau pouvant revêtir toutes les apparences. C'est en fait Clude qui est un cheval, et au moment où le cavalier enfourche la monture, le cheval non ne se dérobe pas sous le poids du cavalier, mais se scinde purement en deux, comme s'il était coupé dans le sens de la longueur par un couteau. Alors le cavalier, tout est étonné, effrayé, se rend compte qu'il a deux morceaux de cheval de part et d'autre de son corps. Il y a plein de petits blagues, mais je crois que vous allez...
Oui, nous allons conclure cet entretien par un extrait justement que vous avez choisi et qui est justement ce diable donc plus spécialement brabançon.
C'est oui, ça plus spécialement brabançon. Il y en a toute une série d'ailleurs, Oscart aussi, Necker. Enfin, l'extrait est très représentatif.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est les... En général, on a l'impression que le diable étant tout puissant fait peur. Bon, Docteur Faust et tout ça, c'est toujours tragique et dramatique parce que quand on a donné son âme au diable et qu'on a signé un pacte avec son sang en général, on a du mal à récupérer son âme. Or, dans ces contes, en quelques pages, on voit que des paysans madrés parviennent à rouler le diable.
Oui, mais je crois que c'est ce qui distingue ce qu'on appelle le fantastique, où l'élément de la peur joue, et le merveilleux, auquel ces contes-ci se rattachent davantage. Dans le merveilleux, on n'a pas peur, ou bien on essaye de combattre la peur par l'humour, ce qui est ici le cas. L'homme le plus simple, le plus niais, parvient à rouler le diable, qui en principe est doté de moyens suprahumains. Et c'est une constante qu'on retrouve en général dans le merveilleux. Ce n'est pas propre à la Belgique. Mais je dois tout de même reconnaître que le diable est bien plus souvent roulé chez nous qu'ailleurs, sans vouloir être trop...
C'est ce côté-là justement qui fait que les Belges sont apparus comme des Tillenspiegel à Peyrot, non?
Probablement, oui.
C'est ce côté...
Parce qu'il a confessé avoir lu le roman de Charles de Coster et ça l'a frappé tout de suite. On retrouve vraiment le caractère du Belge en la personne de Tillenspiegel, qui devient une sorte de symbole partout d'ailleurs. Il faut peut-être rappeler que c'est, à titre d'exemple, le roman le plus connu, le plus populaire dans les pays de l'Est.
Alors, Monsieur Gordon, je vous remercie. Je vais donc maintenant lire un extrait de ce livre, qu'on peut trouver quand même, parce que ce serait dommage que les auditeurs qui éventuellement seraient intéressés et nous téléphonent ne puissent pas le trouver. Il y a moyen quand même. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, je crois. Hein.
Non, nous sommes forcés malheureusement de faire des tirages limités et numérotés en raison de nos moyens. La seule possibilité de le trouver est de nous écrire. Nous avons une ASBL, édition recto verso. On peut écrire au 18 rue des Éperonniers à 1000 Bruxelles.
Bien, ou bien de toute façon vous écrivez à Point de Mire et nous ferons suivre. Merci Monsieur Gordon, et peut-être à une prochaine fois. Je pense de toute façon qu'à Liège, Guy Lemaire s'intéresse également aux diableries de la province de Liège, où il y en a beaucoup, et qu'il va nous proposer ça à la rentrée.
Très probablement, nous avons collaboré plus ou moins, et nous envisageons, si pas une intervention au niveau de télétourisme, probablement au niveau de radiotourisme.
Parce que dans la province de Liège, la province de Luxembourg, il doit y avoir aussi pas mal de contes intéressants.
Guy Lemaire en a...
différents du Brabant?
Oui, on trouve davantage d'histoires relatives aux sautets, aux Newtons, des histoires de seigneurs. Enfin, je crois que dans son ouvrage Histoire de chez nous, Guy Lemaire a présenté un éventail assez intéressant, et c'est un travail que je recommande, bien que l'optique dans laquelle il a été fait est un peu différente de la mienne.
C'est-à-dire
Il opère, je crois, davantage une réécriture très intéressante. Il fait du folklore littéraire, il fait œuvre d'auteur. Mon but à moi était de redécouvrir, si possible, la source originelle de la légende, opérer un retour aux racines.
Ça peut être très dur, parce qu'en général, c'est du bouche à oreille, non?
Oui, mais...
une tradition orale, ces contes. Oui. Je suppose que c'était les grands-pères qui racontaient ça à la veillée.
Ce qui m'intéressait, c'est de revenir aux premières versions écrites et de voir, c'était d'ailleurs très curieux, nous avons... Je l'ai évoqué tout à l'heure, des versions allemandes consignées au milieu du 19e siècle, et de là vous avez des versions en néerlandais ou en français. Puis, vous le trouvez dans l'autre langue, et finalement, Peyro prend connaissance d'une version francophone qu'il écrit en espagnol. Et
avec chaque fois, bien entendu,
toute une filiation.
Traditeur et traducteur.
oui, chaque fois des variantes, c'est assez intéressant.
Chacun y apporte un peu de...
Oui, bien sûr, la personnalité de chaque écrivain frangeux, bien sûr.
C'était donc Bernard Gordon, je vous le rappelle, qui a publié chez Recto Verso Le Diable en Belgique, un recueil de contes rassemblés donc par un Argentin, Roberto Peyro, entre 1909 et 1923.